de la montagne à la mer, écoutez Fréquence Mistral.
Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral. Aujourd'hui, on va accueillir Damien Farjou. Damien qui est président de l'association Dear Valid People et qui nous arrive de Montpellier. Bienvenue à toi, Damien.
Merci Yacine, bonjour à tous et à toutes.
Donc Damien, aujourd'hui, il vient pour promouvoir et parler de son association Dear Valid People. Alors Damien, c'est un personnage quand même assez excentrique sur Montpellier. Il faut savoir que Damien est stand-upper, humoriste. Il est également consultant en accessibilité numérique. Si vous vous demandez ce que ça veut dire, personne ne comprend, moi non plus. En gros, il va quand même aider les gens sur les jeux vidéo à rendre les jeux vidéo plus accessibles pour les personnes en position de handicap. Parce que Damien, il est aussi en fauteuil. Il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'ataxie de Friedreich, nom très compliqué à prononcer. L'ataxie de Friedreich qui fait que Damien doit se mouvoir en fauteuil et qui nous rappelle que souvent, on est très peu accessible. Notamment dans nos studios, aujourd'hui, on s'est rendu compte que notre ascenseur n'était pas assez grand et qu'on avait des marches pour arriver jusqu'à chez nous. Donc, ça nous rappelle qu'on a des gros soucis là-dessus en France. Damien, qui est lauréat de la fondation Banque Populaire, la fondation qui va lui permettre de faire le tour de plusieurs villes en France pour parler de handicap, mais aussi d'autres sujets au travers de l'humour et du stand-up sur des scènes multiples et variées. Donc Damien, je suis très content de te recevoir aujourd'hui.
Moi aussi, je suis très content d'être là et merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Bon, je t'ai présenté dans les grandes lignes de ce que j'ai trouvé, mais est-ce que toi, tu veux rajouter des choses sur ce que tu fais, qui tu es
J'avoue que tu as dit pas mal de choses. En fait, moi, je suis là aujourd'hui sur Marseille dans le cadre d'une tournée des Comedy Club qui m'est permise par la Fondation de la Banque Populaire et donc ce lauréat qui me donne les fonds nécessaires à pouvoir faire une tournée parce que, en fait, c'est aussi en lien avec l'accessibilité, c'est-à-dire que moi, pour jouer dans d'autres villes, je suis obligé d'aller dans des hôtels pour avoir une forme d'accessibilité nécessaire à ma condition. Et forcément, c'est un prix. C'est un prix cher. Je ne peux pas prendre des Airbnb, je ne peux pas prendre des covoiturages pour pouvoir limiter les frais. Donc, j'utilise cette occasion pour remercier à nouveau la Banque Populaire aussi, la Fondation de la Banque Populaire de me permettre cette tournée. Et on en profite en effet pour parler de Dear Valid People dans les villes dans lesquelles je vais tourner parce qu'en fait c'est totalement lié, même si c'est pas considéré comme tel, le stand-up, l'humour pourrait très bien être une action de Dear Valid People, association où je suis président. Et donc, peut-être que je peux enchaîner sur l'historique.
Bien sûr, la présentation de Dear Valid People, DVP pour les intimes.
Tout à fait, à la base, DVP, c'est une émission de radio créée dans une radio associative, Radio FM Plus à Montpellier. La première émission a eu lieu en septembre 2019. Pendant 2 ans, on a eu un format court de 30 minutes en tête-à-tête avec des personnes concernées. Ce que c'était l'envie au départ de remettre vraiment au centre l'expérience vécue des personnes concernées, ce qui manque toujours quand on parle du handicap. Je trouve qu'on fait parler médecins, on fait parler les professionnels sociaux, on fait parler les personnes parce qu'apparemment elles n'auraient rien à dire sur leurs propres conditions. Et donc moi, j'ai voulu créer cette émission pour prendre à contre-pied ça. Pendant 2 ans, il y a eu ce format. Ensuite, une co-animatrice m'a rejoint qui aujourd'hui est le vice-président de DVP, qui s'appelle Camille Carnegues. Là, on a changé de format, un format plus long, plus d'invités. Au final, on a aussi eu l'occasion de faire une émission en public, la Gazette Café, lieu culturel à Montpellier. Et au final, c'est devenu notre format actuel, de faire une conférence enregistrée avec du public qui peuvent interagir avec nous et poser des questions sur le handicap. Émissions qui sont enregistrées, diffusées sur la radio, plateforme de podcast, YouTube.
Ouais, effectivement, si on tape DVP, Dear Valid People sur Google, actuellement, on peut retomber donc, sur tous les Reddit, les podcasts en lien avec cette émission et ces conférences Dear Valid People. J'ai vu que vous avez attaqué récemment un cycle sur la sexualité des personnes handicapées. J'ai vu que c'était assez vaste comme sujet parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui étaient posées, beaucoup de retours. Moi, j'ai apprécié en tout cas de pouvoir parler, entendre parler de ces sujets-là. C'est vrai qu'il y a un côté voyeuriste que vous exprimez dans le podcast et vous en parlez pendant la conférence, c'est que les gens sont curieux de savoir ce que les gens peuvent pas faire, mais pas souvent de ce qu'ils peuvent faire. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme angle de. On a souvent, lorsqu'on est valide, cette envie de savoir ce que la personne ne peut pas faire, mais rarement ce qu'elle peut faire. Et j'ai trouvé ça, enfin, en tout cas, assez intéressant. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ce cycle-là qui est en train d'arriver?
Qui est en cours d'ailleurs, vu que notre dernière émission de ce cycle est le 12 mars à 18h à la Gaz Café, où on va finir ce cycle pour parler vraiment sexualité et handicap. Nous, ce cycle, on l'a aussi créé pour contrer le stéréotype et ce voyeurisme que tu as décrit, c'est que on s'intéresse beaucoup trop à la sexualité des personnes handicapées, c'est est-ce qu'ils peuvent le faire, est-ce qu'ils peuvent faire l'amour, et aussi il y a ce stéréotype de toujours passer par de l'accompagnement sexuel. Au final, on va se rendre compte que c'est plus complexe que ça et qu'il y a des étapes avant. On parle toujours au-dessus de la sexualité, du handicap, mais en fait, est-ce qu'on parle de la rencontre? Qu'est-ce qui se passe quand on rencontre une personne handicapée? Ce qu'on a pu parler avec notre émission de janvier, qui était plus sur les relations de manière générale, les relations intimes, tout type de relations intimes, où là on a pu discuter avec deux personnes concernées, une personne femme et une personne homme, et un petit peu parler de comment ça se passe. Ensuite, en février, on a vraiment voulu centrer sur le couple. L'étiquette du couple, la relation de couple, notamment en France, elle est importante. Donc, comment le handicap influence les relations de couple. Et ce mois-ci, ça va être comment le handicap influence les sexualités.
Effectivement, il y a un vaste sujet parce qu'il y a les handicaps visibles et les handicaps invisibles, bien sûr, qu'on oublie souvent. Bon, aujourd'hui, vous avez du coup cette émission-là, c'est une aventure qui a commencé il y a 4 ans et qui continue d'évoluer au fur et à mesure des rencontres et j'imagine des idées qui émergent. Vous êtes en train d'évoluer, j'ai cru comprendre que vous étiez en train de changer même de format là. Qu'est-ce qui vient de se passer cette année?
Nous, en fait, comme tu dis, on a toujours envie d'évoluer, de faire des nouvelles choses, et à chaque fois, on pouvait se confronter à un plafond de verre, un plafond social, du fait d'être juste une émission bénévole, ça ne nous permettait pas de faire autant de choses que ce qu'on voulait. On a réfléchi, on se demandait comment on pourrait évoluer, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. C'est là que l'idée nous est venue de devenir une association. Donc maintenant, l'association Dear Valley People existe depuis septembre 2023. On avait le choix d'être un bureau en non-mixité choisi, c'est-à-dire uniquement constitué de personnes handicapées, tout type de handicap, confondu visuel, auditif, moteur. Et donc, l'association pose comme objectif de déconstruire le handicap, le validisme et ses sujets associés. Et pour ça, on va passer par deux moyens. La première, le rassemblement des personnes handicapées, notamment à travers des émissions de podcast qui existent déjà, et un projet de cercle de parole qu'on espère voir le jour en 2024. Là où on veut permettre en fait aux personnes concernées librement de pouvoir intégrer le handicap dans leurs histoires de vie, parce qu'aujourd'hui, je trouve que le handicap est encore considéré comme une honte, quelque chose qu'il ne faudrait pas parler, quelque chose en trop. Enfin, moi, je fais souvent la blague que quand je fais des demandes d'accessibilité ou autre, je suis un peu considéré comme un casse-couille. En fait, non, c'est juste mes besoins, c'est ce qu'il me faut pour que je sois là. Le deuxième moyen, ça va être d'être comme un comité d'experts. Il pourra faire des interventions facturées pour pouvoir parler du handicap, d'accessibilité, sur tous ces sujets, parce que là, il y a aussi une problématique dans le milieu, c'est que souvent, on va parler de sensibilisation. Et la sensibilisation est un terme très connoté. On pense souvent associatif, gratuit, pas obligatoire. Nous, justement, on a envie de contrer ça en disant, mais non, c'est des interventions, c'est de la formation, c'est obligatoire parce qu'en fait, vous manquez à vos devoirs actuels. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, je sais pas, tout lieu, normalement, la responsabilité de pouvoir accueillir l'ensemble des personnes. Sauf que les personnes occupées sont toujours mises à l'écart. Et ça va être pareil partout. Tu parles du jeu vidéo, en effet, moi je suis consultant en accessibilité de jeux vidéo. Quand on crée un jeu vidéo, on prend en compte l'aspect marketing et les cibles, les joueurs qu'on vise. On parle de hardcore gamer, de casual gamer. Par contre, on ne parle jamais des personnes handicapées. Comment tu peux t'assurer, être sûr que dans les hardcore gamers, il n'y a pas de personnes en situation de handicap? Tu ne peux pas.
Bien sûr. Et bah justement, moi, sur cette question de l'accessibilité, je sais que pour avoir t'avoir vu sur scène assez régulièrement dans différents lieux, souvent on arrive dans des endroits qui sont en sous-sol ou au premier étage où il y a des escaliers, pas d'ascenseur. Et quand tu arrives sur scène, je t'ai souvent vu, alors je vais un peu spoiler pour les spectateurs, mais je t'ai souvent vu dire, alors je sais ce que vous dites toutes, mais comment est-ce qu'il est arrivé jusque-là? Et c'est vrai que ça me fait souvent réfléchir sur le fait que beaucoup de lieux, quand on est valide, on ne s'en rend pas du tout compte, sont très peu accessibles pour les personnes en handicap, tout type de handicap, hein, bien sûr. Après, il faut voir à travers de tous ces handicaps. Mais comme on est à Marseille, j'avais quand même une question à te poser, c'est qu'est-ce que tu penses de l'accessibilité de Marseille? Qu'est-ce que quand on est en fauteuil à Marseille, comment c'est?
C'est l'enfer.
À pied aussi des fois, je t'avoue, mais c'est vrai qu'en fauteuil, je me suis dit.
Ouais. Bon, après, c'est vrai qu'aussi, moi, je suis à Saint-Charles et donc c'est un quartier où on sent un peu vieux et les trottoirs sont vraiment soit trop petits, soit tout cassés. Et donc, même les trottoirs, quand ils sont abaissés, ils sont assez abaissés pour que je puisse monter avec mon fauteuil. Donc, je suis obligé de rester sur la route. Mais c'est pas fini parce que j'ai découvert que les routes à Marseille, elles sont à droite. Genre, sur les côtés, on sait pas pourquoi, c'est en dévers. Donc, moi, je peux pas rouler dessus. Donc, je suis obligé de rouler au centre de la route.
Il y a quelques bouchons dont tu es responsable sur la dernière semaine, c'est ce que tu voulais nous dire.
Exactement, exactement.
Ouais, effectivement. Et donc, oui, donc y a rien que pour circuler dans l'espace public, mais même, j'imagine, pour rentrer dans les cafés, les bars, on n'est pas là, bien sûr, pour faire. C'est pas un bureau des plaintes, mais je pense que c'est un constat sérieux, c'est que Marseille n'est pas du tout accessible pour une personne en handicap, quoi.
Oui, et après, la question aussi, nous, qu'on remet en question à dire peu, cette question de l'accessibilité. C'est pas uniquement une question de matériel, c'est aussi une question de pouvoir s'adapter aux situations. Là, typiquement, comme tu as décrit notre entrée au studio, vous avez dû m'aider parce qu'il y a des marches, parce que l'ascenseur est trop petit, etc. Mais le fait que vous soyez adapté à ma situation, en fait, pour moi, ça a été accessible.
Oui.
Pas simple, mais accessible. Par contre, c'est vrai que là où c'est quelqu'un paraplégique qui peut pas servir de ses jambes, là, ça devient accessible, oui.
Ouais, je comprends. Ouais.
Donc c'est là où on le sentait un petit peu tout à l'heure quand tu parles du prisme du handicap qui est très large et en effet en fonction du prisme, c'est l'accessibilité ne veut pas dire la même chose pour l'un pour l'autre.
Alors j'y pensais pendant que tu en parlais, mais dans votre association, donc tu parles de non-mixité choisie, en parlant de différents types de handicap, y a des handicaps physiques, mais est-ce qu'il y a des handicaps mentaux aussi également?
Alors là, au sein du bureau actuel, non. Après, on peut parler de handicap dit cognitif, où là, ça va être les maladies qui vont être en lien avec ça. C'est-à-dire que moi, principalement, ma pathologie, l'impact, il est moteur de ce qu'on voit, de ce qui est visible. Après, j'ai aussi une forme de fatigue chronique qui va me créer aussi un impact cognitif et des handicaps cognitifs. Et c'est là-dessus où ça va évoluer parce que forcément la fatigue va te permettre de de comprendre ou de pas comprendre les choses. Mmh. Et pareil au niveau de la culture de manière générale, c'est-à-dire que suivant la forme de handicap que tu as et donc le parcours que tu as pu avoir, il y a des choses que tu vas pouvoir comprendre ou non suivant ton parcours. C'est exactement la même chose qu'une personne immigrée, par exemple. Quand elle va arriver en France, il y a des codes qu'elle ne connaîtra pas du tout parce qu'elle n'était pas en France. Et pareil pour une personne handicapée. Elle était en institution avant et peut-être qu'à un moment, elle va sortir dans le monde ordinaire. Et au final, il y a des codes sociaux qu'elle ne comprendra pas du tout et qu'aussi la manière de s'exprimer de par le handicap va être très contrainte. Nous, par exemple, dans notre bureau, on a une personne, Juliette, qui est MC et qui ne peut pas parler.
C'est MC, pardon, c'est quoi?
C'est infirme moteur cérébral.
D'accord. Okay.
Donc, c'est de naissance. Et elle ne peut pas réellement parler de manière intelligible sans quelqu'un. Enfin, disons que nous, on ne la comprend pas forcément. Donc, elle va passer par quelqu'un. Donc là, il y a déjà le phénomène de la traduction où des fois, ce que la personne dit et ce que Juliette dit peut avoir une différence. Et Juliette, elle va s'économiser aussi. Donc en fait, elle va aller droit au but. Donc il y a des choses, des fois, qui peuvent manquer de nuance. Et donc, dans la conversation, on sent que ça peut changer. Mais au final, nous, c'est intéressant aussi pour nous parce que ça nous permet de nous conforter à ça nous-mêmes. C'est pas parce qu'on est handicapé que ça veut dire qu'on est à l'aise avec tout et qu'on est OK avec tout et qu'on peut s'adapter à tout. C'est nous, ça nous permet de nous confronter à ça, de voir comment on peut agir, comment on peut s'organiser différemment. Et ensuite, on peut en parler au travers de nos formations, interventions pour d'autres publics, pour les entreprises, institutions, par exemple.
Effectivement, oui. Alors, je souhaitais savoir quand même sur Dear Valid People, parce que c'est quand même l'objet de ta visite aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu imagines comme suite pour Dear Valid People? Qu'est-ce que, on va dire, dans un monde idéal où Dear Valid People réalise tout ce que tu aimerais que Dear Valid People réalise, qu'est-ce que ce serait sa mission? Qu'est-ce qu'elle ferait dans les prochaines années?
Bah, continuer ce qu'on fait déjà.
C'est un beau challenge.
Après, ce qu'on aimerait idéalement, en effet, c'est créer des pôles dans des grandes villes, que les personnes concernées puissent réapproprier le sujet du handicap qui ne leur a pas laissé, qui ne leur a pas été laissé. En fait, on est touché par le handicap, mais le handicap est toujours repris par d'autres personnes, notamment administratives, parce qu'en fait, le handicap aujourd'hui en France est trop considéré comme une étiquette administrative et aussi une maladie. Alors, il faut éviter d'ailleurs cet amalgame entre maladie et handicap. Le handicap n'est pas une maladie. Le handicap est causé par une maladie. Mm-hmm. Mais c'est totalement différent. Et justement, moi, je voulais parler de comment est considéré le handicap aujourd'hui. Ça va être le modèle médical. Ce qu'on appelle le monde médical, c'est que c'est quelque chose inhérent à la personne et que le seul objectif serait la guérison, quelque chose qui n'est pas possible, pas toujours possible. Mmh. Donc, on va préférer parler du modèle social, modèle qui est en train de devenir assez célèbre, on va dire, enfin qui est en train de grimper petit à petit, où là, on va considérer vraiment le handicap comme une minorité, opprimée. On va penser le handicap comme un environnement. Ce qui nous handicape, c'est pas nous, c'est l'environnement. Et cet environnement, il n'est pas uniquement matériel, ça peut être aussi l'environnement humain. Il y a des gens qui vont nous handicaper là où d'autres ne vont pas nous handicaper.
D'accord. Bah, effectivement, c'est passionnant. Je pense qu'on arrive sur la fin de notre rencontre. Pour les auditeurs, je pense que ce qu'on peut rappeler, c'est quand même d'aller écouter Dear Valid People, peut-être se faire un appel pour Marseille ou d'autres villes, de créer peut-être des pôles, parce que je pense que vous avez cette ambition de vous développer. Donc si des personnes en non-mixité choisie, donc handicapées, sont intéressées pour reprendre le relais, je pense que vous êtes intéressé quand même de créer des contacts.
Oui, oui, tout à fait. N'hésitez pas à nous contacter par mail, à nous rejoindre aussi au travers l'adhésion, au travers de notre page Hello Asso de Dear Vape People. Vous pouvez retrouver Dear Vape People sur YouTube, les plateformes de podcast. Donc, c'est aussi pour dire que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul et même vous pouvez vraiment faire quelque chose. Vous avez un pouvoir d'agir, ce qu'on ne dit pas aux personnes handicapées de manière générale. On fait croire qu'elles ne peuvent rien faire, mais en fait, si, vous pouvez. Et puis aujourd'hui, on est dans une époque où la technologie permet beaucoup de choses. Donc, il y a possibilité.
Ouais, écoute, sur ces belles paroles, on s'arrêtera là. Et merci Damien Farjou de nous avoir consacré ton temps. Et c'est un plaisir de t'avoir reçu. Excellente journée à tous et excellente journée à vous.
Merci à vous et bonne journée à tous. À toi.